Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Xavier Mauméjean avec Jean-Luc Rivera.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Cité des Congrès de Nantes, au Festival des Utopiales. Nous recevons Xavier Mauméjean.
Bonjour.
Bonjour Xavier Mauméjean. Alors, Xavier Mauméjean, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est l'auteur de nombreux romans depuis une vingtaine d'années à peu près. Alors, vous êtes philosophe de formation, Xavier Mauméjean, et vous avez publié non seulement des romans dont nous allons parler, mais vous êtes aussi l'auteur de nombreuses pièces qui ont été diffusées sur France Culture. Il est d'ailleurs à noter que vous avez eu le Grand Prix de la SACD pour une pièce que vous aviez adaptée de votre roman sur Freud et Houdini, roman dont nous parlerons ensuite.
Voilà.
Donc, votre livre le plus récent est El Gordo, donc chez Alma, mais vous avez écrit auparavant un certain nombre de romans majeurs, comme une biographie de Henri Darguerre.
Qui n'est pas un roman, qui est un essai.
Oui, mais qui... Bon, le personnage est tellement fantastique, on en reparlera, c'est un essai biographique. Chez vous, la distinction entre le réel et le reste est parfois un petit peu difficile à faire. Vous avez fait aussi ce qu'on pourrait appeler le cycle Imaginarium USA, qui se compose de Lilliputia, d'American Gothic et de la Société des faux visages. Donc, ce sont des États-Unis revisités par vous. Vous avez écrit aussi un roman qui est Kafka à Paris, et puis un certain nombre d'autres romans plus anciens, mais dont on parlera. Mais concentrons-nous sur cela, parce que ce sont sans doute les plus récents. Alors, comme je le disais, nous sommes présents pour cette masterclass aux Utopiales, qui est le plus grand festival de science-fiction au monde. Donc, ma première question, Xavier Mauméjean, c'est comment vous sentez-vous dans cet environnement ?
Ah, je me sens très bien. J'y ai des amis. En tant que lecteur, bien sûr, je trouve quantité d'œuvres qui m'ont séduit, qui m'ont probablement formé aussi. Mais en tant qu'écrivain, c'est pas le cas. Je me considère pas comme auteur de science-fiction ou certainement pas de fantasy, de fantastique ou de roman policier. Je me considère comme écrivain. Pour moi, ce sont des moyens pour parvenir à une fin. C'est un peu si vous demandiez à un cuisinier est-ce que vous êtes un écrivain de temps de cuisson ou de poêle ou de casserole. Non. Pour moi, ce sont des moyens, tout comme la littérature générale d'ailleurs. Et selon le sujet que je vais aborder, je sais assez vite quel sera le moyen à utiliser. Et certains n'ont aucune raison de se prêter à la science-fiction ou au fantastique. Certains ont une véritable nature policière, donc il n'y aurait pas de raison de faire autre chose. Donc ça relève plus de l'outil que du genre auquel je sacrifierais forcément. Alors, bien sûr, je conçois que ça puisse être le cas, et quantité d'auteurs tout à fait talentueux se considèrent comme des auteurs de science-fiction ou de romans policiers, ce qui est la même chose. C'est pas mon cas.
Vous êtes un auteur.
Je suis un auteur.
Et le but est de raconter d'abord une histoire.
C'est l'un des buts. L'un des buts est de raconter une histoire et de manière plus continue à travers mes différents romans, c'est d'explorer les frontières parfois floues qui existent entre le réel et le vrai. Les deux ne correspondent pas d'ailleurs, je pense qu'on va probablement en parler, mais le réel excède le vrai. On aura l'occasion d'en parler. La fiction a un pouvoir au-delà du vrai qui manifeste des parts du réel que le vrai n'atteint pas. Lorsque vous regardez le film E.T., vous savez que c'est un bout de caoutchouc animé et pourtant on pleure. Vous êtes prévenu que tel roman de science-fiction, telle œuvre de littérature générale, c'est la même chose, est précisément une fiction. On vous a prévenu, vous le savez, et pourtant vous êtes ému, vous êtes énervé si le roman vous plaît pas. Autrement dit, c'est cette puissance de la fiction qui m'intéresse et qui donc, selon les intentions d'écriture, vont déterminer si je vais utiliser tel ou tel mode littéraire, en fait.
D'accord. Alors, dans ces masterclass, je sais qu'on aime bien s'intéresser, tout d'abord, à l'origine de votre écriture. Alors, est-ce que vous avez toujours écrit ? Ça a toujours été un besoin ou une vocation chez vous ? Vous avez commencé très tôt, très jeune à écrire ?
Ah, pas du tout. J'ai commencé même tard. Mon premier mode d'expression artistique, c'était le vidéo art dans les années 80. Oui. J'ai travaillé avec des gens comme Nam June Paik ou des gens du groupe Fluxus, qui étaient des gens importants dans l'art vidéo. Et puis j'ai arrêté à la fin des années 80, je pensais en avoir fait le tour, et j'ai pas ressenti du tout le besoin de m'expliquer de manière artistique. Jusqu'au jour où j'ai eu une idée de roman. J'ai pas eu une envie de roman. J'ai eu une idée. Oui. Et puis j'ai tracé un paragraphe. Ça allait plus ou moins bien. Puis un deuxième a suivi. Et j'ai fait un roman qui a été primé sur manuscrit. C'était Les Mémoires de l'homme éléphant. C'est Jacques Baudou, un ami commun, un grand connaisseur des genres qu'il avait repéré. Et puis de là, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné. Donc j'ai pas commencé par l'art difficile, en fait, de la nouvelle. Souvent, on commence ainsi. Non, j'ai commencé directement à 30 ans. Enfin, il était publié, j'avais 35 ans, par là, par un roman.
Par un roman, mais centré autour d'un personnage réel, parce que l'homme éléphant, c'est John Merrick, qui a été extrêmement célèbre en son temps.
Oui, alors, j'avais effectivement, comme tout le monde, repéré Joseph Merrick, à travers le film de David Lynch, mais je connaissais aussi la pièce de Donald Pomerance qu'a interprété David Bowie à Broadway. Et bon, ça m'avait plu, mais enfin, chaque fois que quelque chose vous plaît, vous ne décidez pas d'en faire un roman. Et puis, il y a eu une conjonction étrange. J'étais à Londres et on était en train de déjeuner dans un restaurant où, évidemment, trônait la figure de Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Et puis, en sortant de là, je suis tombé dans une bouquinerie où j'ai trouvé l'édition originale des mémoires du docteur Frédéric Treves, qui est donc le médecin de Merrick. Et je me disais, tiens, c'est marrant, parce que j'avais déjà l'intention, mais à peine. Et dans les lignes de Treves concernant Merrick, il est dit, il ressemblait à une divinité indienne. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, les signes sont là, il faut faire ça, voilà. Et là, donc, justement, une fois de plus, c'est la volonté de fiction, elle repose sur le réel, c'est-à-dire ce mélange, dès le début, ce mélange le vrai et le faux dans une espèce d'excroissance du réel original.
Oui, alors justement, vous commencez dès votre premier roman là avec John Merrick, mais ensuite, il me semble, et j'aimerais que vous nous en parliez maintenant, qu'un premier fil conducteur à travers toute votre œuvre, c'est le choix des personnages. À chaque fois, vous prenez des personnages qui sont des gens réels, et ensuite, vous les, comment dirais-je, distordé légèrement. Comment vous vient le choix de tous ces personnages ? Parce que vous avez utilisé aussi bien Freud et Harry Houdini que Franz Kafka. Dans American Gothic, vous inventez quelqu'un qui est Daryl Leland, mais il évolue au milieu de personnages réels. Donc, comment opérez-vous ces choix et...
Ben, en fait, je traite à part égale les personnages de fiction et les personnages authentiques, dans la mesure où je les fais se rencontrer d'une sorte de zone neutre où les personnages authentiques sont tirés vers la fiction et les personnages de fiction sont à ce point criblés de références authentiques qu'ils en paraissent vrais. Et pour répondre plus précisément, les personnages historiques ont un avantage, c'est qu'on gagne du temps dans le récit. Ils sont des catalyseurs de réel, ils incarnent l'esprit du temps ou au contraire, ils sont en rupture avec l'esprit du temps, ce qui permet de poser assez rapidement une intrigue. Et pour peu qu'on puisse jouer sur les caractéristiques de ces personnages, le récit gagne en originalité. Je vais vous donner un exemple. Je travaillais sur le roman Freud-Houdini et je voulais faire une pause parce que j'en ai un peu marre de travailler sur la documentation. Et donc, je me suis dit, je vais relire le journal de Franz Kafka. Et je mets souvent des coups de crayon dans... J'annote beaucoup mes livres. Et arrivé au chapitre de son voyage à Paris, il n'y avait aucun coup de crayon. Alors je me suis dit, tiens, ça n'a pas dû m'intéresser. Donc ça, je vais le relire. Et là, je me rends compte que cette semaine-là, Apollinaire est enfermé pour avoir prétendument volé la Joconde. Marinetti et ses cinglés futuristes débarquent à Paris. Et il y a Franz Kafka et Max Brod. Et que de ce voyage à Paris, ils produiront un guide touristique de Paris qui fait 2 pages et qui s'appelle Pour rien. Je me suis dit, bon, bah, on arrête tout. Houdini et Freud attendront. Il faut faire ça. C'était d'autant plus intéressant que ce personnage réel, comme vous dites, est mal connu en France. On croit que c'est une espèce de personnage souffreteux, névrosé. Alors que Kafka pratiquait l'aviron, il pratiquait la boxe, il allait au bordel. Et il avait beaucoup d'esprit. Il faut s'imaginer que les textes de Kafka sont lus en lecture privée, entre amis, comme des farces. Donc déjà, le personnage lui-même connu est une fiction.
Oui.
Et le réinjecter dans une part mal connue de sa réalité, son voyage à Paris, permettait de créer une fiction. Vous voyez, c'est des emboîtements un peu comme des torsions entre 2 fils. Le vrai et le faux.
Oui. C'est la même chose avec votre roman La société des faux visages. Cette enquête qui est menée par Sigmund Freud et Harry Houdini à New York, ça aurait pu arriver.
Ah ben totalement. Et là aussi, il y a une semaine où Freud, Jung et Houdini auraient pu se rencontrer. Ce n'est pas le cas. Mais quand j'ai appris que Freud et Houdini étaient allés à Coney Island, là où il y a toutes les attractions de la foire, où il y a Lilliputia, qui m'était cher, puisque j'avais déjà écrit dessus. Je me suis dit, Freud et Jung sont à Coney Island, et il paraît que Freud s'est évanoui, trop d'informations, et il a déclaré que Coney Island était l'inconscient à ciel ouvert, et Jung lui a adoré, et ça correspond à leur personnalité. Donc je me suis dit, bah, puisque les 3 sont à Manhattan au même moment, bah, faisons-les les rencontrer. Houdini est un spécialiste de l'évasion. Freud et ses enquêtes dans la psyché est un spécialiste de l'intrusion. Sont 2 juifs d'origine austro-hongroise comme l'étaient Kafka et Brod dans Kafka à Paris. Ça vaut le coup.
Et puis Jung au milieu en plus.
Oui, voilà. Donc, et en plus, Jung qui se fait quand même proposer par... la société de neurologie américaine lors du séjour de faire un coup d'état, de renverser Freud pour proposer une science aryenne et propre, et qui hésite, qui dit même pas non, qui hésite. Enfin, il y avait des quantités d'intrigues qui sont générées par la réalité. Je n'ai rien inventé dans toute cette partie-là. Souvent, j'aime bien dire que la réalité n'hésite jamais à en faire trop. C'est-à-dire que en tant qu'écrivain et en tant que scénariste, je ne me permettrai pas de faire des récits qui sont authentiques, qui a produit la vérité. Par exemple, pour ma trilogie américaine, le fait que Walt Disney, qui s'en vante en plus, les studios Walt Disney, ont écorché un faon pour voir la musculature de l'animal de manière à la reproduire dans le charmant Bambi. Ou que, autre exemple, que dans un dessin animé, des studios Fleischer, Betty Boop danse en vantant les mérites de la chaise électrique. Et donc, c'est pour ça que, en fait, le réel est tellement riche en fiction, le réel génère tellement sa fiction que je me contente d'y coller une intrigue qui est de mon fait. Mais c'est suffisamment riche, en fait.
Oui. Bah, vous avez mentionné tout à l'heure à propos de Freud Houdini que Sigmund Freud s'était évanoui en allant à Coney Island. Justement, vous avez consacré l'un de vos romans à Coney Island, où là, c'est l'environnement qui est tout ce qu'il y a de plus authentique et de plus détaillé, mais où là, vous introduisez 1 ou 2 personnages de fiction, et Lilliputia, c'est absolument extraordinaire.
Bah, Lilliputia procède en fait du même mécanisme. J'étais tombé dans une note en bas de page d'un essai de Ram Koolhaas sur l'architecture de Manhattan. Et dans cette note en bas de page, il disait que À Coney Island, il y avait une ville pour Lilliputiens, donc pour nains à proportion parfaite, et que dans cette ville, il y avait une compagnie de pompiers nains qui éteignait 5 fois par jour d'authentiques incendies et qui, pour tenir le coup, consommait de la cocaïne fournie par les organisateurs du parc. Alors, vous doutez bien que à H-1 seconde, j'ignore tout ça. Et à H+1 seconde, on me propose de faire un roman sur une compagnie de nains lilliputiens qui éteignent des incendies sous cocaïne. Bon, bah, on peut pas résister à ça. Donc, alors, celui-ci m'a demandé énormément de travail. Déjà, pour reconstituer, depuis, il y a certains sites sur la foire qui ont fait un magnifique travail qui m'aurait été bien utile, mais pour reconstituer la ville. Alors, j'ai pas pu tout reconstituer, donc j'ai inventé notamment, j'accorde aux rues et aux avenues des noms de bonbons, mais de bonbons d'époque, ça me paraissait cohérent. Le parler forain aussi, il fallait que je retranscrive en français l'équivalent, la rythmique du parler forain. Et puis, je souhaitais que cette matière qui était tellement riche soit sertie dans un récit qu'on puisse reconnaître assez facilement et qui est en fait un double récit, qui est le mythe de Prométhée. Oui. Parce que Prométhée a affaire aux dieux, bon ben un petit aurait affaire aux gens de taille normale qui sont considérés comme des géants dans l'adaptation. Et puis la guerre de Troie. Je voulais que mes pompiers, deux pompiers notamment, soient Hector et Achille. Donc là aussi, c'est un travail d'imbrication d'éléments qui sont connus et d'éléments connus ou pas, qui relèvent non pas de la fiction, mais de ce que génère de plus bizarre, de plus étrange, la réalité.
Alors, en parlant de réalité et d'environnement, Xavier Mauméjean, vous pouvez nous parler un petit peu de votre tout dernier roman qui est juste sorti il y a quelques semaines, El Gordo, où là, on change complètement d'environnement et on est dans les environnements les plus cruels qui soient, puisque ça a été la guerre d'Espagne et toutes ces atrocités.
Alors, effectivement... Et d'un côté, il est assez proche d'un précédent roman qui s'appelait Rosée de feu sur le phénomène kamikaze, qui donc était déjà un récit de guerre. Et ils ont une autre similitude qui est le recours au témoignage. Pour Rosée de feu, j'avais rencontré une dame dont le père était colonel de l'armée de terre au Manchukuo, la république fantoche des Japonais en Chine. Et il avait été fait prisonnier par les Chinois. Il était mort dans un camp, me disait cette dame, parlant de son père. Et un rescapé des camps avait rapporté à sa veuve 2 os prélevés sur la dépouille. L'un, elle l'avait enterré dans l'axe probable entre le Japon et le camp soviétique. Et l'autre, elle l'avait pilonné et absorbé. Déjà, c'était fort. D'autant que mon témoin, très belle femme de 70 ans, kimono blanc, parlait de sa mère, mais de manière totalement détachée, comme si c'était une vague anecdote familiale. Et l'autre anecdote qui était puissante, c'est que les oncles de cette dame que j'interrogeais avaient été kamikazes. L'un avait fait le plongeon et l'autre pas, parce qu'il y avait eu entre-temps l'armistice. Et n'ayant pas pu se sacrifier pour l'empereur, il était invité à chaque événement familial, à chaque fête, de manière à être un fantôme, de manière à être ignoré par le reste de la famille. Alors, tous ces éléments qui sont donc une fois de plus ce que le réel offre, je ne les ai pas retranscrits dans Rosée de feu, parce que ça relevait de l'intime, de la confiance, du témoignage. Mais ils étaient présents au moins en tant qu'inspiration. Par contre, dans El Gordo, les témoignages sont puisés dans ma famille, dans ma propre famille, oui. Avec cette particularité que du côté de mon père, l'engagement était clairement franquiste. Mon grand-père a abandonné femme et enfant pour aller s'engager dans la Falange et pour participer au siège de Madrid. Et quand je dis qu'ils les ont abandonnés, il n'est jamais revenu. Hein. Il a repris son activité artistique, mais il n'est jamais revenu. Bon. Et du côté de mon grand-père maternel, c'était tout à fait le contraire, puisque mon grand-père était aider les réfugiés basques. Il était proche du président Aguirre, donc du président du gouvernement basque. Et cette déclinaison s'étend pas uniquement à mes grands-parents, enfin mes grands-pères, mais à mes grands-oncles, etc. C'est-à-dire que on imagine mal ce qu'a dû être le mariage de mes parents. C'est les Capulet, les Montaigu, version basque. Et donc j'avais comme ça des anecdotes de la même guerre, mais bien sûr pas du même regard,
oui.
Pas de la même orientation politique, radicalement même. Et bah, j'ai 58 ans, ça m'a pas interpellé, si je puis dire, avant. Mais d'un autre côté, j'avais depuis longtemps la volonté d'écrire un Don Quichotte, qui est un projet maudit, hein, que ce soit faire un remake de Don Quichotte, quand dernièrement Roche dit, ça n'y a pas réussi. Mais je voulais en faire un, et à un moment, ce qui paraît simple, mais qui l'était pas visiblement, je me suis dit, bah, Don Quichotte, c'est le meilleur moyen narratif de traverser l'Espagne en guerre de bout en bout, c'est-à-dire d'un sud de l'Espagne qui est déjà soumis à l'abattage, au massacre, au viol des deux camps, jusqu'au nord, jusqu'au Pays Basque, au moment où l'ensemble des forces nationalistes va converger vers le Pays Basque. Donc Don Quichotte était un moyen élégant, filé, fluide, de traverser le pays. Mais d'autre côté, c'était pas la peine de refaire Don Quichotte. Donc, comme Shakespeare et Cervantes sont morts le même jour, si on tient compte des calendriers grégoriens et juliens, j'ai voulu que le personnage soit anglais et enfant.
Oui.
L'innocence de l'enfant pour traverser ça. Donc, son Sancho Panza, il est également enfant. Et il est muet. Alors là aussi, c'était intéressant. C'était de pouvoir faire des dialogues où il y avait que la moitié des dialogues. D'un point de vue littéraire, c'était une contrainte intéressante. Et donc, ces deux enfants vont traverser l'Espagne en guerre pour récupérer El Gordo. On y arrive. Ah. El Gordo étant le gros lot, c'est-à-dire la somme en millions de pesettes de l'époque, hein, qui était versée le 21 décembre de l'année. Voilà. Et donc, vous avez raison, ce roman, il est en rupture, ne serait-ce que pour des raisons biographiques et familiales, il est en rupture avec tout le reste, mais il en est en même temps le continuateur dans cette volonté toujours de mêler le vrai du faux. Par exemple, dans le roman, il y a deux figures majeures et là aussi opposées, qui sont Federico García Lorca, qui est donc le poète que l'on sait, qui était républicain, et de l'autre côté, Julius Evola, qui était un grand esprit, qui était un esprit brillant, un peintre de qualité, mais qui s'est fourvoyé dans des recherches ésotériques, mais surtout dans son engagement auprès de Mussolini. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser Evola et Lorca un peu comme les sorcières dans Le Magicien d'Oz. Vous voyez, les sorcières de l'Ouest et la sorcière de l'Ouest, de manière à, au-delà des événements qui sont racontés, proposer une sorte de combat astral, combat magique, dont El Gordo serait l'enjeu, puisque en tant qu'attracteur de chance, celui qui détient le billet loterie gagnerait le conflit espagnol.
Voilà, le camp qui détient le billet gagne.
Et ça a fonctionné dans la réalité. C'est ça qui est fascinant, c'est que dans la réalité, le gouvernement nationaliste, donc Franco, ont lancé leur propre loterie avec un El Gordo. Et ce qui est incroyable, mais chacun ici peut le vérifier, c'est que deux fois de suite, donc deux années sur trois après 1936, le conflit s'arrête en 1939, c'est le même numéro qui est tombé de chaque côté. Sauf que l'argent versé était supérieur côté franquiste, pour des raisons évidentes. Et donc, on peut dire, on peut affirmer que le sort de la guerre, la fortune de la guerre civile était prédictible à partir des billets de loterie. On pourrait faire de la lotomancie.
Ce qui prouve qu'une fois de plus, la réalité dépasse la fiction.
Ah, mais toujours, la vérité dépasse la fiction, mais c'est la fiction qui révèle l'absence de limite de la vérité et de la réalité.
Ouais.
C'est ça qui fait aussi que, en fait, n'importe quelle lecture est une lecture d'imaginaire. C'est un mot qui est soit très riche de sens, soit qui est creux, parce que n'importe quelle autofiction, qui est certainement pas mon genre littéraire de prédilection, est quand même un récit imaginaire. Une biographie est un récit imaginaire. La forme d'un livre est une forme imaginaire. Il y a des coupures. Les moments de stérilité, disait Fielding, l'auteur de Tom Jones. Oui. C'est-à-dire qu'on est obligé de couper. Vous n'allez pas mettre 150 pages blanches pour dire que le personnage est en train de dormir, etc. C'est-à-dire que l'objet même, l'objet livre, est un objet d'imaginaire, quel que soit son contenu.
Tout à fait. Alors, justement, cet aspect d'imaginaire et le contenu, bon, vous nous avez exposé là dans cette masterclass que nous enregistrons aux Utopiales de Nantes. Vous nous avez exposé un petit peu vos sources d'inspiration. On a vu que parfois, il suffit d'une lecture, même si on se dit qu'il n'y a pas vraiment de coïncidence quelque part. Mais donc, je pense qu'il serait intéressant que vous nous parliez de tout le travail de recherche que vous faites ensuite. Parce que lorsqu'on lit vos romans, on s'aperçoit que vous êtes passé devant la feuille de papier en sussautant votre crayon et que c'est tombé du ciel tout seul. On sent qu'il y a derrière tout cela un travail de recherche, de retour aux sources, etc. Donc Xavier Mauvaisjean, vous pourriez nous parler un peu de votre journée de travail et comment vous procédez pour écrire un roman ?
Mais en fait, justement, je ne procède pas par journée. J'ai le sentiment que ma manière de travailler est en fait une manière picturale. Bon, toute proportion gardée, évidemment. Je compare ça, par exemple, au travail de Jackson Pollock. Je crée, mettons, 200 fichiers, oui. Parce que j'ai à peu près l'idée du nombre d'épisodes. Après, certains se fonderont. Et au fil de mes recherches, je diffuse l'information dans les fichiers, mais sans me soucier d'intrigue, sans me soucier de narration. Et puis petit à petit vont se détacher des éléments, mais en fait quand les fichiers sont ouverts, c'est visuel, des éléments de concordance ou de dissonance que je vais exploiter. Et par exemple, je sais que un indice, mettons qui apparaît au chapitre 2, je le reproduis, mais sans changer la forme, j'essaie pas d'écrire au chapitre 24, parce que l'indice deviendra signifiant au chapitre 24. Donc c'est une approche formelle, plastique, qui fait que je n'écris jamais dans la continuité. Par exemple, j'écris souvent la première phrase et la dernière phrase. Ce sont mes points de départ et points d'arrivée. Mais après, ça dépend de la richesse de la documentation, de l'envie du moment, évidemment. Donc je peux écrire le chapitre 24 et puis après écrire le chapitre 3 et puis continuer ainsi, sachant que je ne relis pas. Je quitte le chapitre et il est écrit. Donc il m'arrive, mais pas si fréquemment que ça, de devoir lisser l'ensemble, puisque c'est écrit de manière totalement stochastique, désordonnée. Mais c'est rare quand même. C'est-à-dire que je lis pratiquement pas. Je fais attention à des erreurs qui pourraient se produire. Mais non, en fait. Donc j'écris absolument pas dans la continuité. Et j'écris en fonction de mes recherches, ce qui me permet en fait d'effectuer des recherches jusqu'au dernier chapitre. C'est-à-dire que quelque chose que je pourrais trouver au moment où j'écris le dernier chapitre sera intéressant pour le chapitre 4. Donc là, je retourne au chapitre 4 et là, effectivement, je procède à des changements.
Donc si je comprends bien, en fait, vous vous asseyez, vous avez, pour votre nouveau roman, la phrase d'introduction, la phrase d'ouverture et la phrase de conclusion,
oui.
Et tout le reste, en fait, est à l'état latent, quelque part dans votre esprit,
oui.
Et ensuite se bâtit au fur et à mesure.
Oui, oui. Et d'ailleurs, j'aime bien dire, bon, il ne me reste plus qu'à rédiger, parce que c'est vrai. En fait, pendant des mois, j'ai la représentation visuelle des chapitres, oui. Et je pioche, et j'écris en fonction d'eux. Sachant aussi, une chose qui est importante, c'est que le style lui-même est justifié par le projet. J'essaye de n'avoir jamais le même style selon les romans.
Oui.
Donc ça peut être un pastiche, par exemple, de l'écriture victorienne dans Ganesha, l'homme éléphant. Ça peut être un pastiche, mais alors là, au plus près d'un philosophe du 18e, La Mettrie, dans la Vénus anatomique, où j'avais lu tout la maîtrise pour m'imprégner de sa rythmique, oui. De son vocabulaire. Je faisais des banques de mots qui revenaient chez la maîtrise de manière à les utiliser. Et donc le style, je suis pas un écrivain à style au sens où je revendiquerais un style, mais je suis un écrivain de style au pluriel, puisque chacun est relatif au projet. Donc je change de style. Et ça fait partie là aussi d'une approche plastique. C'est-à-dire que je ne vais pas me laisser emporter par l'écriture. Elle est totalement maîtrisée. Par exemple, pour El Gordo, j'avais fait des banques de mots empruntés à Cervantes, mais pas que, à d'autres aussi, de manière à trouver un ton qui soit à la fois moderne et emprunté à la chevalerie, ou en tout cas oui. Déjà ce qui est Don Quichotte, une parodie de chevalerie, et en même temps un ton goguenard, battleur, que j'avais déjà employé grâce à La Foire, qui est un de mes grands sujets d'influence. Donc il fallait comme ça obtenir une synthèse qui soit propre à ce récit, mais qui est inutilisable dans d'autres récits.
C'est ce qui s'était passé aussi, par exemple, dans American Gothic, où là vous utilisez un style de dépêche, d'échange de courriers, etc. Et c'est à travers ces échanges que se bâtit tout le portrait de Daryl Leland.
Voilà. Alors, American Gothic est une relecture, une variation autour de quelqu'un qui m'est cher, qui est le peintre et écrivain, plutôt l'écrivain-peintre, d'ailleurs, selon lui, Henri Dargare, oui. Et dont on sait finalement pratiquement rien. Enfin, on sait mieux maintenant. Et donc, je voulais cette approche non seulement éclatée, plurielle, mais contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs manifestes dans les témoignages, dans les dates, etc., qui sont intentionnelles, tout simplement parce que c'est comme ça dans la réalité. Vous prenez un site spécialisé sur Arsène Lupin, vous aurez des problèmes de chronologie, alors que c'est censé être connu, mais selon les spécialistes, ben, ça variera. Donc j'avais introduit une multiplication de mémos, effectivement, d'annonces radio, de témoignages enregistrés, pseudo-enregistrés, etc., de manière à avoir une approche chorale, hein, oui. si on peut dire, mais qui soit défaillante, qui introduise ses propres problèmes. On n'a pas à la fin le portrait de Daryl Leland, comme on n'aura pas le portrait d'Henri Dargare.
Quoique dans la biographie, justement, que vous avez consacrée à Henri Dargare, on a là une meilleure idée de qui était ce personnage, totalement étonnant. Il serait peut-être intéressant pour les auditeurs de la masterclass d'évoquer un peu Henri Dargare, qui est vraiment un artiste à la fois méconnu, mais qu'on redécouvre aujourd'hui, totalement hors du temps.
Ah oui, bah c'est quelqu'un que, déjà le roman m'a demandé de manière discontinue une quinzaine d'années pour être écrit. C'est celui de loin qui était le plus long à écrire, mais j'y ai introduit aussi l'intérêt que j'avais pour Dargare, mais qui ne se manifestait pas un temps par la fiction. On en savait peu. Moi, je connaissais par ses œuvres qui sont exposées, il y en a peu à Villeneuve-d'Ascq. Puis il y a eu des événements parisiens qui fait que petit à petit, je fais justement des coupures pour en arriver à ma rencontre avec Kyoko Lerner, donc l'héritière de Dargare, et ça s'est très bien passé. J'étais dans son appartement derrière le centre Georges Pompidou, et je lui ai fait état de ma volonté de renvoyer l'ascenseur au vrai Dargare,
ouais.
Puisqu'il m'avait permis d'écrire un roman dans lequel elle figurait. Je voulais mieux le faire connaître, et là c'était par l'approche universitaire, de manière assez artificielle, mais il fallait qu'il rentre dans la dimension académique. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une thèse, qui m'avait jamais traversé l'esprit jusqu'alors. Là aussi, un moyen, c'était pas une finalité, c'était un moyen, la thèse. Et Kyoko Lerner m'a dit, très bien, je vous donne accès aux 30 000 pages manuscrites de Dargare. Donc ça a été un emboîtement heureux entre le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui avait le fonds, donc qui m'a donné. Au début, j'allais au musée d'art moderne, et puis j'allais y avoir mon rond de serviette. Hein, 30 000 pages, c'était pas possible. Donc, avec l'autorisation de Kyoko Lerner, ils m'ont tout mis sur clé USB. Ouais. 5 clés, quand même. Hein, 5 clés USB. Et j'ai lu les 30 000 pages de Dargare, et j'en ai fait une thèse, puis une biographie parue aux Forges de Vulcain, qui est suivi d'une dizaine d'essais et qui, j'espère, permettent de mieux connaître cette figure qui a été réduite à une marionnette par les galeries d'art, par l'art brut, alors qu'il est tout simplement un autodidacte, enfin, qui lisait quand même William James, Cervantes. C'était un autodidacte. Avait-il des problèmes mentaux, peut-être, mais en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai lu par exemple un commentaire de William James. On n'est pas le ravi de la crèche hein, pour écrire un commentaire de William James. Donc, j'y ai, j'espère, dégagé une figure intègre qui est celle d'un créateur. Et puis bon, après, était-il malade ou pas, ça relève de l'intime et ça ne m'intéresse pas éventuellement.
30 000 pages écrites et combien d'œuvres picturales ?
Moins, beaucoup moins. Au Desbeautés, je vous dirais qu'il y en a, si on compte les tableaux proprement dit et les dessins plus les collages, entre 200 et 300. Voilà. Mais lui-même, de toute façon, se considérait comme écrivain et illustrateur de ses œuvres. Donc les grands panneaux, bien sûr, étaient autonomes, mais beaucoup d'illustrations ont été, c'est horrible, détachées de ses manuscrits, qui se présentaient comme des livres illustrés, calqués sur le magicien d'Oz.
D'accord.
Non, il était écrivain pour lui.
Alors, 30 000 pages, on en revient encore à ce travail colossal, donc... que vous fournissez pour étayer vos romans. Donc tout ce travail de recherche, ça me semble quelque chose d'absolument fondamental dans votre écriture.
Mais le travail de recherche, en fait, il est dicté donc par le projet et dans un temps court, qui est le temps de création de l'ouvrage, je commence à très très bien connaître un domaine restreint mais en profondeur, et après j'oublie tout. Ça m'intéresse plus, c'est-à-dire que très gentiment on me parle encore du phénomène kamikaze et tout, ça ne m'intéresse plus.
Oui, une fois que vous en avez tiré la substantifique moelle...
Oui, voilà, oui. Mais je pense que c'est pareil pour tout écrivain, je ne pense pas qu'on veuille rattacher, tirer un auteur vers tel ou tel roman nécessairement...
C'est-à-dire que ça se passe dans certains cas parce que les lecteurs ont tellement aimé un roman qu'ils en redemandent.
Bien sûr.
Et évidemment, là, vous subissez la pression de votre éditeur.
Mais il y a un temps. C'est vrai que le travail d'écriture repose sur différentes temporalités. Il y a le temps de création, déjà, qui est discontinu. C'est vrai qu'en France, une espèce de sport national qui consiste à déifier l'acte de création. Non, moi, je vais chez Leclerc acheter des pommes. Donc, je laisse mes personnages en plan. J'en reviendrai plus tard. Ça peut durer des années. C'est un travail totalement discontinu. Et il y a aussi, bien sûr, le temps d'édition. Par exemple, El Gordo était prêt depuis longtemps, mais il y a eu le Covid, etc., etc. Et puis, il y a le temps du lecteur qui est encore un autre temps et qui n'est pas un temps passif. Le lecteur, il est agissant. Son point de vue enrichit l'œuvre. Et je ne le dis pas du tout de manière démagogique. C'est que tout simplement, s'il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas d'écrivain. Si vous n'êtes pas lu, c'est terminé. Donc, c'est cette espèce de trois types de durée. La durée éditoriale, la durée du lecteur et avant chronologiquement la durée de création qui s'entremêlent et ne se succèdent pas forcément. Mais c'est pareil, la durée de création, on a tendance souvent à dire « mais quelle était l'intention de l'auteur ?» Et on la trouve, c'est-à-dire ça, les profs de français sont spécialisés dans ça. Il a écrit ça parce que. Il a écrit ça parce que sa fille est morte, donc voilà, ma fille est morte, allez, je vais torcher un poème, ça ira mieux après. Non, en tout cas en ce qui me concerne, l'intention de l'écrivain, on n'en a strictement rien à faire. J'accompagne pas chacun des exemplaires de mon ouvrage chez les gens pour leur dire bah, « attendez, on se calme, non, vous aimez le livre, ça m'est égal, écoutez mon intention ». C'est ridicule. D'autant plus que l'intention initiale de l'écrivain, bah, vous l'avez très bien dit, elle va nécessairement se modifier avec le travail monstrueux de recherche qui va apporter lui-même d'autres données, d'autres éclairages. Et puis en plus, bien sûr... quand on est invité à une émission, etc., il y a toujours moyen de mentir sur son intention. Ah oui, mon intention était bien celle que le public a découvert, etc. Donc on s'en fiche, quoi. L'intention de l'auteur, c'est pas, en tout cas pour moi, un moteur littéraire.
Ce qui vous intéresse plus, quelque part, c'est ensuite la lecture, je suppose, que chacun en fait, la réception de votre roman et la lecture que chacun en fait, parce que effectivement, lorsqu'on lit un roman, on a tendance, chacun en fonction de notre propre culture, de notre propre formation, de nos propres centres d'intérêt, à se projeter dedans selon un angle ou un autre.
Mais tout à fait, bah, oui, comme chacun sait, l'activité d'écrivain est une activité solitaire, donc c'est le seul moment où on a un autre éclairage, d'ailleurs qui est assez marrant pour El Gordo. La matière même du récit, le conflit entre le franquisme et républicain font que c'est amusant, j'en suis content, d'excellentes critiques dans le Figaro et dans l'Humanité. Donc c'est étonnant de voir que ça se répercute et c'est effectivement la lecture qui nous revient, qui est intéressante. Mais j'ai eu la même expérience dans cette maison à France Culture, c'est-à-dire que en écrivant des pièces radiophoniques, oui, vous écrivez un texte. Vous écrivez un texte qui est écrit, qui est destiné à être lu, parce que vous, en tant qu'auteur, vous lisez, vous êtes lecteur de votre manuscrit. Mais le texte, dans une pièce radiophonique, n'est pas un texte lu, c'est un texte joué par des comédiens, sous la direction d'un réalisateur, et donc ils vont apporter des nuances, des inflexions, qui constituent un autre regard. Et qui sont toujours merveilleux. Moi, j'adore écouter les pièces radiophoniques dont mon texte est à l'origine. Pas pour y retrouver mon texte, mais en tant qu'auditeur. C'est l'une des rares fois où un écrivain peut être étonné par ses propres récits.
Oui, vous en avez une perception complètement différente.
Totalement nouvelle, complètement différente, et qui est toujours passionnante, parce que ça dit à l'écrivain, ouais, ok, t'as écrit le texte, mais regarde ce qu'on pouvait en faire. C'est fascinant. De la même façon que le lecteur qui vous dit « Ah oui, mais ce passage-là, c'est forcément un clin d'œil à ça », ça ne l'est pas forcément, mais en même temps, ça l'est. Et ça dit à l'écrivain « Eh oui, ça aurait pu être ça aussi ». Et c'est les rares moments d'étonnement qu'un écrivain peut ressentir à l'égard de son travail.
Alors, jusqu'à maintenant, dans cette masterclass, nous avons déjà couvert beaucoup de points. Mais il me semble que l'une, et on l'avait, je l'avais mentionné un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais que nous revenions plus en détail dessus, c'est que vous, Xavier Mauméjean, vous êtes toujours quelqu'un qui aimait jouer avec le lecteur en nous mettant face à des situations, à des personnages, et on ne sait plus où est le réel, où est la fiction. Vous nous avez fait remarquer déjà tout à l'heure aussi que dans un certain nombre de cas, la réalité dépasse de loin tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Vous aimez donc jouer avec à la fois la réalité et avec le lecteur ?
Tout à fait. Alors, c'est un jeu au sens où il a des règles, mais qui ne sont pas applicables au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, j'espère, peut lire un de mes romans sans en connaître les règles initiales. Alors, effectivement, ce qui porte l'ensemble de mon travail, c'est la distinction entre vrai et réel, je l'évoquais tout à l'heure, par le biais de la fiction. Le fait, par exemple, que le Père Noël est réel. Il n'est pas vrai, mais ne serait-ce que d'un point de vue économique, il présente des critères authentiques de réalité, il a une influence sur... Le Père Noël dispose d'un amour et d'une affection que lui vouent les enfants que n'a pas forcément Julien Boulard qui vit dans une HLM à Arcis-sur-Aube. Donc on a des personnages comme ça de fiction qui l'emportent sur le vrai. Mais c'est vrai pour quantité de choses. Par exemple, le Londres de Sherlock Holmes a formé la vision que l'on a du véritable Londres. Encore mieux, le Paris de Balzac est définitivement le vrai Paris. C'est-à-dire que c'est par le biais de la fiction que l'on retrouve des pans entiers du réel qu'on méconnaissait et qui donc sont donnés pour vrai. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Douglas Hostatter et un français, Emmanuel Sonder, qui ont créé un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle le faux-authentique. Le faux authentique, c'est du faux que vous savez être faux, mais qui génère tellement d'indices de vérité qui vous apparaît comme réel. Par exemple, vous allez dans une boutique de dentelle à Venise. La boutique est vraie, elle a, mettons, 200 ans. La boutique vraie de dentelle est tenue par deux authentiques dentelières qui ont 60 ans, respectables, elles connaissent le métier. Et elles vous vendent de la dentelle fabriquée en Chine. Mais vous repartirez de la boutique en ayant effectivement été dans une boutique authentique servie par de véritables dentelières, ce qui fait que l'impression de vrai l'emporte sur le faux et tout ça vous paraît réel. Et dans l'absolu, dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire à travers mes romans, c'est que le faux ne génère pas une impression de fiction, mais génère une impression de réalité.
C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on vous lit, parce que on est là où s'arrête le réel, où commence la fiction.
Voilà.
On est toujours incapable de le dire, y compris même dans certaines scènes d'El Gordo. On est là, on se dit, mais dans les portraits que vous dressez des différents protagonistes des deux côtés, on est là à se dire, mais est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils sont inventés?
Voilà, et donc à ce mélange, bon, par exemple dans El Gordo, je dis que tous les anarchistes qui s'appelaient Jésus, Ressus, prénommé Jésus, sont appelés du jour au lendemain Bakounine. C'est authentique. C'est authentique. Donc il y avait le Bakounine des cajots, le Bakounine du train, le Bakounine des entrepôts. Voilà. Bon, évidemment, quand on tombe sur ce genre d'éléments, on les garde. Quitte d'ailleurs, ça m'arrive régulièrement, à renoncer à des pans entiers de fiction. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre du vrai, invraisemblable, et ma fiction, que j'ai mon invention, ben, je laisse tomber mon invention et je prends le vrai invraisemblable. C'est toujours ce qui me motive, effectivement.
Alors, je ne résiste pas à ce propos à vous poser une question. Les actions que vous décrivez de Julius Evola, il est vraiment allé en Espagne? Il a vraiment combattu, un peu malgré lui, aux côtés des forces italiennes en Espagne? Ou ça, c'est totalement inventé?
Alors, ça, c'est totalement inventé, mais il y arrive au jour précis où arrivent les services de renseignement italiens, dans le nombre précis, 3-2 bombardiers. Puis la description de l'arrivée des forces italiennes de plus en plus imposante, avec les chemises noires, etc., est authentique. Donc là, effectivement, c'est une légère goutte de fiction dans la soupe du réel. Mais par exemple, je fais rencontrer Evola et Lorca à New York en 1929. Alors, Lorca était effectivement à New York à ce moment-là, mais je l'ai fait rencontrer dans un délice qui s'appelle chez Scotty, que j'ai cité plusieurs fois déjà dans mes romans, et qui est quand je vais à New York, je vais toujours là. Et hélas, le confinement a fermé Scotty, qui était un délice qui existait depuis 1923. Et qui était vraiment, ça, vous le connaissez, Jean-Luc, le New York authentique, quoi, avec des Italo-Américains qui habitaient tous Brooklyn, probablement. Et donc là, j'ai sorti un élément vrai, personnel, un élément faux et un élément authentique, le contingent italien.
D'accord. Donc là, c'est vrai que El Gordo, pour rester dessus, vraiment, on suit donc l'équipée de William et de Passemontagne à travers cette Espagne qui est en pleine décomposition, où les gens changent même de camp en fonction du moment. Vous avez un personnage qui a deux portefeuilles, alors selon le camp qui l'arrête, il sort un portefeuille ou l'autre, il ne faut pas qu'il se trompe d'ailleurs. ça, c'est absolument fascinant, parce qu'on a l'impression que tout est réel. Et là-dessus, outre vos témoignages familiaux, vous êtes appuyé aussi sur beaucoup de documents d'époque.
Alors là, c'est intéressant, parce que l'exemple que vous citez, celui de l'étudiant. Alors, l'étudiant est repris tel quel dans Cervantes. C'est le personnage de Carrasco qui dans le Don Quichotte original, ne cesse de se moquer du Quichotte. Il anticipe toujours la progression du Quichotte et l'attend dans des auberges et monte à chaque fois une farce. Donc déjà, c'était un personnage intéressant parce qu'il n'a aucune morale. Donc c'est intéressant de le reprendre tel quel. Donc lui, c'est un emprunt direct au Quichotte. Le coup des portefeuilles est vrai. Je l'ai lu. Donc quelqu'un qui avait traversé l'Espagne en utilisant deux portefeuilles. L'un où il y avait le portrait collé de Primo de Rivera, le fondateur de la Falange, et l'autre portefeuille où il y avait le portrait collé de la Passionaria, donc l'égérie anarchiste. Et donc il jouait comme ça, et je me suis dit, c'est magnifique, c'est tellement invraisemblable, et ça a fonctionné, que je le reprends. Et effectivement, c'est un personnage qui traverse comme ça l'Espagne, mais j'ai d'autres personnages dans El Gordo qui me semblent survoler tout ça, qui sont Taliaferro, qui apparaissait déjà, un petit clin d'œil, dans Lilliputia, qui était aviatrice déjà, sauf qu'elle était petite à l'époque, et qui est une sorte de vamp des années 30, tout en cuir, etc. Donc il faut parfois jouer avec les clichés font gagner du temps à la lecture, mais qui est une sorte d'ange, en fait, et comme dans les véritables anges bibliques, on ne connaît pas les motivations, ce qui peut apparaître bien ou mal, relève de notre morale, pas de la morale angélique. Et son contrepoint, le sniper aveugle, qui est donc un tueur à coup sûr, mais qui est aveugle, et qui là aussi est un clin d'œil à un classique de la littérature espagnole, qui est Lazarillo de Tormes, qui est un orphelin qui traverse l'Espagne, qui à un moment devient chien d'aveugle. Je vais faire un petit clin d'œil. Donc là aussi, c'était une rencontre entre des éléments authentiques, des éléments empruntés à la Bible, à Don Quichotte, à la documentation historique. Ouais. Et tout ça, sans tenir le coup. Il faut emboîter des pièces qui, à l'origine, n'étaient absolument pas prévues pour aller ensemble.
Il y a aussi un personnage, moi, que j'ai trouvé absolument fascinant dans El Gordo. C'est la préceptrice amoureuse de Primo de Rivera et qui est manifestement une vieille femme desséchée et qui est là, qui mène tout son petit monde à la baguette et ne s'autorise qu'un seul plaisir, c'est écouter un sérial à la radio le soir.
Voilà. Ouais, il se trouve que ce personnage a existé, c'était ma grande tante. dans le roman, elle anime un mannequin à roulettes avec le visage de Primo de Rivera. Ça, fort heureusement, c'était pas le cas. Mais pour le reste, oui, c'était, vous savez, ces vieilles femmes franquistes. Elle était d'ailleurs amie de Carmen Franco. Ces vieilles femmes franquistes ont une sorte de détermination qu'on ne trouve que chez les chevaliers teutoniques. Vous voyez, une sorte de rectitude. Enfin, il est impossible de défaire les vieilles nationalistes. Et ça m'intéressait, ne serait-ce que pour me venger du temps passé dans mon enfance chez elles. Je voulais qu'elles réapparaissent.
Très bien. Alors, dans cette masterclass, moi, je crois qu'il serait aussi intéressant de dire un mot de vos relations avec votre éditeur, parce que vous avez depuis plus d'une dizaine d'années maintenant le même éditeur, Alma, et manifestement il y a une relation qui s'est établie entre vous, et ça intéresserait nos auditeurs, surtout ceux qui ont peut-être des velléités ensuite eux aussi de devenir auteurs. Pourriez-vous nous parler un peu des relations qui s'établissent avec un éditeur comme ça? Il semble que ce soit moins courant de nos jours que ça n'a pu l'être à une époque.
Ah oui, tout à fait. Alors moi, j'ai globalement toujours eu des relations cordiales avec mes éditeurs. Mais là, c'est chez Alma le fait d'une authentique rencontre dont d'ailleurs France Culture n'est pas véritablement étranger, puisque c'est par le biais d'un ami commun, François Angelier, qui m'avait présenté à Jean-Maurice de Montrémy, qui s'apprêtait à lancer sa propre maison d'édition, ayant lui-même un vécu dans le milieu littéraire qui était appréciable. Et il y a eu cette rencontre, un déjeuner. Les déjeuners sont toujours très bien et très révélateurs. Et on s'est trouvés. Et donc j'ai proposé mon projet infaisable American Gothic. Et puis effectivement, il n'y a aucune raison. C'est une maison qui travaille à l'ancienne, au sens où il y a un vrai suivi du texte, mais pointilleux. Le texte n'est publié que quand vraiment on estime qu'il ne peut pas être mieux, et ça, quel que soit le projet, quel que soit l'auteur. Et donc depuis, effectivement, je suis chez Alma, pas du tout l'intention d'aller ailleurs. Et dernièrement, Alma a été rejoint par Laure de Fiol, qui en a repris la direction. Et Laure de Fiol, qui vient des éditions de Minuit, elle a passé 15 ans aux éditions de Minuit. Et j'y vois une certaine continuité quand même d'une maison à l'autre, même si elles n'ont pas le même lectorat. Une sorte, oui, comme vous l'avez très bien dit, de façon, comme on dirait, de sérieux à l'ancienne, qui fait que moi je m'y trouve très bien. Alors, c'est quoi bien s'entendre avec un éditeur ? Selon moi, c'est travailler ensemble à ce que le livre soit au mieux. Donc, c'est ni acter toutes les demandes de l'auteur, ni acter toutes les directives de l'éditeur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lieu où on se retrouve et où ce qui compte, c'est le bien du livre. Oui. Parce qu'une fois de plus, la part personnelle n'a pour moi strictement d'intérêt dans l'ouvrage. Donc ce qui compte, c'est le bien du livre. Et bah, force est d'avouer qu'avec Jean-Maurice de Montrémy et Laure de Fiol, c'est ce dont on est parvenu déjà 4 fois. Alors, ça veut dire quoi, le bien du livre ? Pour American Gothic, par exemple, un sérieux remaniement du manuscrit. Oui. Je pense que là, c'est l'éditeur qui a trouvé la bonne attaque. Il était dans son premier état, le manuscrit, inutilement hermétique. J'en avais fait trop dans les clés, etc. Il y a gagné. Et dernièrement, sur El Gordo, c'est ce qui m'arrive rarement, peut-être une volonté de trop en dire dans la documentation, vous voyez. Et Laure de Fiol a apporté, a suggéré, c'est toujours des suggestions, quelques coupures. Moi, je voulais en faire des tonnes sur Viva la Muerte, Unamuno, son arrestation. Enfin, c'est vrai que dramatiquement, c'est fort, mais ça n'apportait rien. Donc, il faut choisir. Et choisir, comme chacun sait, c'est renoncer. C'est le plus difficile. Hein. C'est pas ce qu'on garde qui compte, c'est ce qu'on laisse. Mais on l'a bien fait. De mon point de vue, du leur, je pense qu'on l'a bien fait. Et donc, pour moi, une entente avec l'éditeur, c'est le livre, en fait. Mmh. C'est 1 plus 1 égale 3. L'éditeur plus l'auteur égale le livre.
Merci beaucoup, merci Xavier Mauméjean, pour cet entretien passionnant.
C'était la masterclass de Xavier Mauméjean avec Jean-Luc Rivera, enregistrée aux Utopiales de Nantes. Attachée de production, Corinne Amar. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Virginie Lorda et Julien Girard. Chargée de production, Guillaume Rialan. Réalisation, Perret Legras.